25 janvier 2009. Vous rappelez-vous cette date? Certains s'en souviennent peut-être. Le ciel grisaillait, il tombait une pluie fine et glaçante. On ne trouvait pas âme qui vive dans les rues de la ville, sauf des chrétiens, pressés de rejoindre la cathédrale Saint-Julien pour l'ordination de leur nouvel évêque, Monseigneur Yves Le Sault. 14 ans après, sous un beau soleil printanier, les catholiques du diocèse arrivent de toute la Sarthe pour accueillir leur nouveau pasteur, Monseigneur Jean-Pierre Vimin. La cathédrale, pour nous autres, catholiques de la Sarthe, est le lieu évident des rassemblements, la maison du Seigneur où nous vivons les grands événements de notre diocèse dans la communion. Pour les apôtres, ce lieu s'appelle le cénacle, c'est-à-dire la pièce où l'on partage la scène, le repas du soir. Ainsi, les textes de ce dimanche évoquent le lieu de la communion avec Dieu et entre nous. Dans la première lecture, l'auteur des Actes parle de la chambre haute où se rassemblent les apôtres après l'ascension. À l'époque de Jésus, dans les maisons, il existe une chambre au-dessus des pièces communes que l'on réserve pour les hôtes de passage. Il y a de fortes chances pour que la pièce mentionnée ici soit la même que celle où Jésus a pris son dernier repas avec ses disciples. Luc note en effet que les apôtres s'y tiennent habituellement. On imagine que les souvenirs affluent dans la tête des apôtres. Ils étaient 12, désormais ils ne sont plus que 11, puisque Judas a trahi son maître. Le premier départ de Jésus au moment de sa passion avait déchiré leur cœur et les avait plongés dans la peur et le doute. Maintenant, le départ définitif de Jésus vers le ciel les place en situation d'attente, dans l'espérance de la venue du Saint-Esprit, leur autre défenseur. Enfin, ils ne sont pas seuls. D'autres disciples se tiennent à leur côté avec Marie, la mère de Jésus, dont c'est la dernière mention explicite dans l'Écriture. Saint Luc souligne deux faits d'importance. Tout d'abord, il utilise l'adverbe « homotumadon » d'un même cœur pour décrire l'unité entre les apôtres. De plus, ces derniers sont assidus à la prière, ce qui dénote leur volonté d'être unis au Seigneur. Ainsi, le cénacle où Jésus a institué l'Eucharistie demeure le lieu de la communion avec le Seigneur et entre les disciples du Christ. Le psaume, quant à lui, est centré sur la demande du croyant « Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie ». Cette maison n'est pas seulement pour nous l'église de pierre minérale ou de béton, lieu habituel de nos rassemblements paroissiaux. Non, elle est avant tout l'Église, avec une majuscule, faite des pierres vivantes que nous sommes tous par notre baptême. D'ailleurs, comment habitons-nous nos églises? C'est une vraie question. Et bien plus profondément, comment habitons-nous l'Église? L'expression « tous les jours de ma vie » n'est pas à relativiser en fonction du contexte de rédaction du psaume. Non, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie signifie vivre en communion avec le bon Dieu et avec ceux qu'il m'a donnés pour frères et sœurs. L'Église, avec une minuscule, a vocation à m'accueillir, si ce n'est tous les jours, au moins chaque dimanche, pour me permettre de rester dans la communion de l'Église, cette fois-ci avec une majuscule. Nous savons bien que la communion porte aussi en elle-même son poids de souffrance. Comme le dit Jésus dans l'Évangile selon saint Jean, « Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. » Dans sa première épître, saint Pierre exhorte les premiers chrétiens à se réjouir de communier aux souffrances du Christ. Cet appel à la joie n'est ni du masochisme, ni de la résignation face aux avanies du monde présent, en attendant la gloire ultime. Pierre semble faire écho à l'une des béatitudes de l'Évangile selon saint Matthieu. « Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Assurément, la joie peut jaillir au milieu de l'épreuve, quand nous ressentons que nous sommes bien, comme disciples du Christ, là où nous sommes. J'ai en tête ces religieuses Tutsi et Hutu vivant dans le même couvent au milieu du désastre humain que connut le Rwanda. Je pense à Mgr Clavery, parlant de la croix plantée là où des hommes et des femmes souffrent et ont besoin de notre charité active. Oui, la joie peut naître de persévérer dans l'attachement au Christ, quels que soient les événements, y compris dans le malheur. L'Évangile, enfin, nous ramène au premier rassemblement de Jésus et de ses apôtres au Cénacle. Après le lavement des pieds et l'institution de l'Eucharistie, après un long discours d'adieu en guise de testament spirituel adressé à ses disciples, le Christ élève une prière vers le Père. Comme toujours chez saint Jean, le langage est simple, mais le propos dense et complexe. Comme Jésus a glorifié son Père, et lui-même donc, en permettant aux hommes de connaître Dieu, notamment à travers l'œuvre du salut, il demande au Père d'être glorifié pour faire accéder les hommes à la vie éternelle. L'enjeu de cette glorification réciproque est en effet la participation des disciples du Christ à la communion en Dieu. Or, en posant comme identique la scène et le sacrifice de la croix, « Ceci est mon corps, livré pour vous. Ceci est mon sang, versé pour vous. » Le Christ affirme que l'Eucharistie est par excellence pour lui le lieu de la glorification et pour nous le lieu de la communion avec Dieu et entre nous. Je sais, frères et sœurs, votre inquiétude face à la diminution du nombre de prêtres. Aurons-nous encore accès à l'Eucharistie dans quelques années, se demandent certains. Certes, l'Eucharistie est d'abord une grâce à demander et à recevoir de Dieu. Et notons que Jésus prie pour nous, sans doute en ce sens. Mais il dépend de nous aussi de tout mettre en œuvre matériellement et spirituellement pour que le plus grand nombre vive de l'Eucharistie. Jésus nous a promis la force de l'Esprit Saint qui nous aide à faire de nos assemblées d'authentiques lieux de communion.